Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Ludovic Dujardin, le cofondateur de Petit Bambou, la première application de méditation en France. Cette success story française est pourtant née un peu par hasard quand, il y a une dizaine d'années, Benjamin et Ludovic, les deux fondateurs de Petit Bambou, se posent la question du sens qu'ils donnent à leur travail. Quelles traces veulent-ils laisser? Quel impact souhaitent-ils apporter? Capitalisme et bien-être sont-ils opposés ou y a-t-il un moyen de les rassembler? Un débat dans le respect qui invite chacun et chacune d'entre nous à la réflexion pour mieux prendre le pouvoir de sa vie. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue! Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ludovic Dujardin. Bonjour Ludovic!
Bonjour Louise.
Bienvenue sur In Power. Je suis très contente de t'accueillir. J'ai une première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc tu peux dire ce que tu veux.
Ok, donc on va commencer par le facile. Donc, ouais. Je m'appelle Ludovic, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. J'habite le nord de la France, j'ai un parcours d'entrepreneur, là je conduis un projet qui s'appelle Petit Bambou pour lequel tu me reçois, mais c'est la 7e entreprise que je crée en fait, donc je n'ai fait que ça de mon activité ouais. professionnelle. Et c'est marrant, il y a un mot qui me vient en tête pour me présenter. Si je voulais me présenter aujourd'hui tel que je suis, enfin comme je voudrais, je dirais bah, je suis un chantier en fait.
Un chantier, sympa.
Ouais,
en construction.
Ouais, en construction, exactement, un peu comme tous les humains, je pense. Ouais. Mais en ce moment, c'est assez présent chez moi.
Et alors, pourquoi en ce moment, c'est assez présent chez toi?
Parce que j'arrive à un âge qui est l'âge de la moitié de vie, en fait. Et donc, je passe par cette phase que certains appellent la crise de la quarantaine, d'autres après la transition de milieu de vie. Et moi, je préfère cette idée de transition de milieu de vie, que ce soit pas une crise. Mais où je commence à me poser des questions qui sont plus les mêmes questions que celles que j'avais quand je suis arrivé sur le monde professionnel. Et donc du coup, ça bouge beaucoup de choses à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je vais à la rencontre de qui je suis, en espérant qu'un jour je me rapprocherai. Je ne pense pas que je trouverai, mais je me rapprocherai. Et donc du coup, ça bouge beaucoup de lignes dans ma vie. Le succès de Petit Bambou aussi a bougé beaucoup de lignes, parce que c'est un check que j'ai mis dans ma to-do list que j'avais à 20 ans, qui n'est plus la même maintenant. Donc il y a pas mal de choses qui bougent en moi.
Voilà. Et comment est-ce que tu abordes ces phases de vie? Parce que je pense qu'on est plusieurs à les rencontrer au final à différentes étapes, que ce soit la sortie des études, que ce soit, je sais pas, quand on a des enfants, enfin quand on arrive à la moitié de sa vie ou même à la retraite. Est-ce que tu as expérimenté, que ce soit dans cette phase-là ou dans les précédentes, des manières de l'aborder plus sereinement? Parce que c'est vrai que je trouve en fait qu'on peut avoir très vite, on peut très vite s'en vouloir presque, tu vois, de vouloir autre chose. Alors qu'au fond, c'est normal, quoi, c'est humain.
Ah, t'as tout à fait raison. La façon dont je l'aborde, c'est avec qui je suis déjà, donc je suis pas un exemple. Mais il y a deux mots que j'aime beaucoup, c'est une certaine forme d'humilité, c'est-à-dire que leur dire qu'on est humble nous rend pas humble évidemment, mais c'est d'avoir de l'humilité sur le fait qu'on a pu se tromper quand on était plus jeune, mais qu'en fait c'est pas vraiment se tromper, c'est qu'on répondait à des aspirations qu'on avait à ce moment-là, que ces aspirations ont changé, et puis regarder avec douceur et gentillesse le petit garçon que j'étais à l'époque quand j'avais 2 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, et puis savoir ce que je veux faire de ce petit garçon aujourd'hui qui est un grand garçon.
Ouais. Et ça c'est très fort, c'est un peu la notion d'enfant intérieur qu'on entend pas mal en méditation. Absolument. Mais c'est vrai que récemment j'en parlais à mon copain, je pense qu'il m'en voudra pas d'en parler, mais il était très difficile envers lui-même, et je lui ai dit en fait viens, ouvre ton ordinateur et trouve une photo de toi quand t'étais un enfant. Et donc il a trouvé la photo de lui enfant, et je lui ai dit voilà, à chaque fois que tu te critiques, c'est lui que tu critiques. Et en fait, ça l'a vachement ému. Et je pense qu'on oublie on oublie vraiment ça, quoi. Que
Absolument.
Quand on se flagelle et quand on se critique sans cesse, c'est en fait la petite Louise, le petit Ludovic qu'on critique, on est la même personne, et qu'en fait, c'est pas la solution, quoi.
Ah
non. Faut se traiter avec bienveillance, et se critiquer ne nous a jamais amené. Et ça, c'est quoi, en rentrant tout de suite dans un débat, parce que bon, on a parlé un peu avant quand Ludovic est arrivé, donc là je sens que je suis déjà dans l'énergie du débat, hein. Désolé pour les auditeurs qui au bout de 3 minutes ne comprennent pas ce qui se passe, mais vous inquiétez pas, on reviendra après un ordre un peu chronologique. Mais j'allais dire, se critiquer ne nous sert, en fait, ne nous sert jamais, ou en tout cas ne nous amène pas forcément plus loin. Et au fond, en fait, en le disant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai, tu vois. Je pense que, alors je sais pas si il y a peut-être là un amalgame de ma part entre critique et exigence, mais je pense quand même d'avoir une certaine exigence envers soi-même nous amène plus loin. Qu'est-ce que t'en penses ?
J'en pense que si c'est juste pour toi, c'est juste pour toi, en fait. Et que si l'exigence est un moteur, surtout, il faut écouter ton exigence envers toi-même. C'est peut-être pas juste pour quelqu'un d'autre. Et aller chercher ça est pas inintéressant pour découvrir qui on est, en fait. Pardon. Moi, j'aime bien cette notion de quête du bonheur, parce que je pense que c'est... On peut être à peu près tous d'accord là-dessus en se disant que bah, on est sur Terre avec une quête d'être heureux. Une quête qui est la beauté du chemin est certainement beaucoup plus belle que l'arrivée, parce que comme il n'y a pas vraiment d'arrivée, on ne peut pas dire bah, voilà, je suis pleinement heureux et puis ça n'a plus rien qui bouge. Ça serait triste d'ailleurs.
Ouais.
Et de dire que, se dire que quand on vient de naître, la quête du bonheur, c'est d'être accepté par ses parents. Parce que si on n'est pas accepté par ses parents quand on vient de naître, bah, tout simplement on meurt. Parce que c'est les parents qui nous nourrissent, qui nous donnent un toit, qui nous donnent la base de la pyramide de Maslow. Et voilà. Et ensuite, quand on grandit, on a d'autres aspirations, la quête de l'indépendance, la quête de la réussite, la quête de générer des regards de fierté sur soi, la quête d'être fier de soi-même. Et puis à 40 ans, c'est autre chose. Et puis à 60 ans, ça sera autre chose. Et ne pas, je trouve qu'il ne faut pas renier tout ce qu'on a mis en place avec nos moyens, à l'âge qu'on avait, pour aller chercher ces quêtes, en fait. Et voilà, et si ton moteur pour aller remplir ces quêtes est l'exigence envers toi-même, ben super, c'est un super moteur, l'exigence. Mais si par contre, ça te détruit, et ça t'empêche de progresser vers ce à quoi tu aspires, à ce moment-là, ben, il faut en prendre conscience et puis peut-être modifier le moteur.
En fait, tu vois, je pense pas que ce soit un moteur conscient. Je pense que c'est du fait de mon enfance, etc., que je réalise en fait que j'ai une grande exigence envers moi-même et envers les autres. Et donc c'est bien parce que ça me pousse à me dépasser, mais de l'autre côté, je suis jamais vraiment satisfaite. Et on en parlait en introduction ici en off avant de commencer ce podcast, mais moi j'aime pas trop l'idée de toujours plus, parce que je la trouve assez malsaine en fait. Hein. C'est que du coup c'est un peu ça, c'est ne jamais être satisfait. Et donc c'est en tout cas quelque chose que j'aimerais, sur lequel j'aimerais travailler. Mais c'est un peu dur, donc je fais un peu de gratitude, tu vois. Mais j'ai l'impression que si on est conditionné à ne jamais être satisfait de ce qu'on fait, c'est assez dur de changer ce conditionnement.
Bah, t'as absolument raison. Hein. Et prendre conscience que le monde qui nous entoure, c'est-à-dire les phénomènes extérieurs à nous, qui ne sont pas notre intériorité mais extérieurs, nous amènent à toujours plus. Nous incite à toujours plus, c'est une réalité et ça nous oblige à aller chercher un peu à l'intérieur sur comment on reçoit ce toujours plus pour trouver l'équilibre là-dedans. Et j'ai envie de dire, on vit ça, c'est rigolo parce que moi, j'ai une phrase qui me revient en tête d'une chanson d'un groupe qui s'appelle The Cure qui est Never Enough. Ils ont fait une chanson qui s'appelle comme ça et je l'écoute de temps en temps en me rendant compte que, en fait, est-ce que même moi, je me dis, c'est never enough avec mes enfants, never enough pour ma femme, never enough pour mon boulot. Et puis, de temps en temps, réinviter le enough, en fait. Non, là, ce que je fais, c'est bien. Et si c'est pas assez, c'est peut-être que je suis pas capable de donner plus. Et si je suis bien avec ce enough, à ce moment, c'est bien. Si je suis pas bien avec ce enough, en me disant, non, vraiment, là, il faut que je fasse plus. Mais c'est un petit mouvement intérieur. Ça, c'est pas une injonction extérieure. Et ce petit mouvement intérieur, si j'arrive à l'écouter et à modifier peut-être mon emploi du temps pour que ça soit enough quelque part, soit un sujet qui me nourrit, à ce moment, il faut le faire. Mais c'est vrai que l'extérieur nous dit never enough.
Ouais, l'extérieur nous dit ça. Et parfois, ouais, l'éducation, la comparaison. Et quand tu disais, c'est peut-être que j'en suis pas capable, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, tu vois. C'est... Parce qu'on peut être capable de tout dans l'absolu, tu vois, si on l'apprend, si on travaille. Mais bon, après, c'est peut-être accepter qu'on n'a peut-être pas le temps de tout faire non plus, quoi.
Absolument. Oui, bah, c'est un choix de priorité hein, sur ce qui nourrit. Et encore une fois, on répond à nos quêtes intérieures. Et elles ne sont pas toutes bonnes à tous les moments. Et voilà. Non, il y a des choses dont on n'est vraiment pas capable. Traverser l'Atlantique en apnée, on n'est pas capable.
Ouais, a priori, c'est toujours ça, je l'ai accepté.
Et effectivement, gravir l'Everest, aujourd'hui, j'en suis vraiment pas capable. Mais non, si je décide que c'est une de mes quêtes de faire ça, peut-être que je peux me rendre capable ou me rendre compte que, je ne sais pas, mon cœur bat trop vite et donc il n'y a pas assez d'oxygène et que j'en suis pas capable. Et accepter cette limite-là aussi, non pas comme étant un échec, mais comme étant une partie de moi-même.
Et c'est vrai que c'est intéressant ta notion de quête, je trouve, parce que en fait, je trouve que ça peut aider à poser ses priorités. Quand parfois ça peut être difficile, c'est de se dire, ok, en ce moment, c'est quoi ma quête ? On a toujours une ou deux qui dominent, et de se dire, bon, bah alors c'est ça que je vais mettre en valeur, et c'est ce à quoi je vais accorder le plus de temps, et c'est OK, du coup, si ça en met une autre un peu en stand-by, quoi, ou de, ah oui. Voilà, et qu'après, on la reprend. C'était quoi tes quêtes quand t'avais 20 ans?
T'as du temps?
Sois honnête. Oui, bien sûr qu'on a du temps, on a une bonne heure devant nous.
Je crois que là, j'avais une quête qui était m'indépendantiser, mais ça c'est une quête qu'on a tous à 20 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on passe du monde où on est
logé, nourri, blanchi.
Exactement, au monde où on est indépendant. Et l'indépendantisation vient aussi avec une certaine forme de liberté de pensée. Ma vraie quête, elle est étonnante, c'est très intime ce que je vais te dire, mais je voulais rendre mes parents fiers de moi à 20 ans.
T'en avais conscience?
Non, pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. Ça, c'est une réécriture a posteriori qui explique peut-être aussi mon parcours entrepreneurial. C'est-à-dire que je voulais créer quelque chose de mes mains avec mon indépendance qui rende mes parents fiers. Je me suis rendu compte, après quelques années de psychothérapie, que en fait, mes parents étaient fiers de moi depuis le jour de ma naissance. Et donc, en fait, c'était une quête que je m'étais imposée, moi, pour aller soigner peut-être des blessures que j'avais reçues quand j'étais enfant, mais qui était assez vaine, finalement. Et j'étais confronté mes parents à cette quête il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une petite dizaine d'années maintenant, non, moins que ça, dans 6 ans, leur disant, voilà, moi, j'ai toujours fait mes choix pour vous rendre fiers de moi, et je pense que je n'ai pas reçu assez de fierté. Et alors, mes parents n'ont pas forcément très bien compris, parce qu'eux, ils étaient hyper fiers de moi depuis le départ. Donc, ils n'ont pas bien compris, mais ils ont quand même accueilli ça. Ils ont accueilli ça, et je me souviens de ma mère qui m'a pris dans les bras le lendemain, qui m'a dit, je ne sais plus si je te demande pardon ou je m'excuse, mais pour tout ce qui n'a pas été assez bien fait. Et j'ai trouvé ça chouette, parce qu'elle acceptait sa vulnérabilité, elle acceptait...
D'être faillible,
oui. Elle acceptait mon besoin, en fait. Elle n'a pas du tout été dans une énergie, mais pas du tout, je suis fier de toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc en fait, elle a accueilli ce que je vivais. Elle l'a soignée en disant que oui, elle n'a pas été parfaite. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Puis j'ai surtout, bien aimé cette écoute. Et cette écoute en profondeur du besoin de son petit Ludo de 2 ans qui a vécu ce manque de fierté comme il a pu. Et voilà. Donc, tu vois, c'est ma quête de 20 ans, mais c'est très intime. Hein.
Ouais, bah merci de l'avoir partagé. Et je pense que je voudrais juste souligner ce que tu as dit par rapport au fait de ne pas forcément reconnaître les besoins, parce que ça me parle et j'ai vécu ça aussi plusieurs reprises avec mes parents. Et en fait, je le dis à tous les parents ou futurs parents, c'est en fait ne remettez jamais en question l'émotion ou la parole que vous partage votre enfant. C'est en fait quand il vous dit que ça l'a blessé, en fait, ça sert à rien de lui dire. C'est juste vrai, c'est sa vérité en fait. Ça sert à rien de lui dire mais non, t'exagères, je sais pas quoi. En fait, c'est ce qu'il a ressenti et je pense que l'accueillir sera toujours plus bénéfique que de le renier parce que ça peut juste en plus créer encore plus de frustration ou de doutes internes.
Pas simple hein, de pas être sur la défensive quand on est parent et qu'on reçoit ça.
J'imagine. Parce que tu l'es maintenant, donc tu t'en rends compte quoi.
Ah oui. Donc je fais de mon mieux.
Faire de son mieux, que peut-on vraiment exiger de plus que cela? C'est une citation que j'ai dans mon livre et qui me tient beaucoup à cœur. Et écoute, c'est l'occasion idéale de parler un peu de Montessori, parce que tu en as parlé, on en a parlé ensemble. Tu as du coup étudié, c'était quoi toi, juste le primaire ou t'as fait plus longtemps?
Juste le primaire.
Ouais.
J'ai pas fait la maternelle en Montessori, mais mes parents m'ont mis dans une école primaire Montessori. Et donc j'ai fait du CP au CM2.
Ouais.
À l'époque, on appelait ça 7e et 8e, 8e, 7e, je suis vieux. Donc
t'inquiète.
Je cherche.
Moi, déjà, je suis déjà parti à la génération où on a passé bac L, E, S ou S et ça n'existe plus. Donc,
moi, j'ai un bac C.
Ça fait mal. Comme mon père.
ça me rajeunit pas. J'étais élevé dans une école Montessori et je remercie beaucoup mes parents d'avoir fait ça. Parce qu'évidemment, c'est pas moi qui ai choisi à 6 ans d'aller au CP Montessori. Mais ils m'ont mis dans cette école. Moi et mes frères et ma sœur d'ailleurs. Et j'en ai tiré beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui m'est arrivé plus tard, de comprendre tout ce que ça avait pu m'apporter. Et là, pour le coup, quand tu parlais d'exercice de gratitude, j'ai une énorme gratitude pour mes parents d'avoir fait ça, de m'avoir mis dans ce type d'éducation. Ça me convenait très bien.
Tu peux nous dire à quoi ça ressemblait un peu les journées dans une école Montessori?
Alors moi, les journées dans l'école Montessori, je me souviens que j'allais à l'école en courant. J'avais très envie d'y aller, très envie d'y aller. C'était le lieu où je pouvais être, alors le mot est pas bon, mais boulimique d'apprentissage. Et il y a une notion dans Montessori que j'aime énormément, c'est qu'on peut aller à son rythme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un exercice en autant de temps. Si on le fait plus vite, on le fait plus vite. Si on le fait moins vite, on le fait moins vite. Et il n'y a pas de bien ou de mal tant que l'apprentissage est intégré. Ouais. Et moi, ça m'a super convenu parce qu'il y a pas mal d'endroits où j'allais très vite. Et donc, du coup, bah, j'ai consommé ce savoir. Enfin, intégré ce savoir, pas consommé du tout. Donc, j'y allais en courant. Je m'asseyais à ma table, on était sur l'étape de 4, je me souviens, donc on travaillait par petit îlot de 4. Et puis j'allais chercher la boîte d'apprentissage qui me plaisait. J'étais plutôt matheux à l'époque, donc j'avais une forte tendance à aller vers les maths et peut-être aller moins vers les matières littéraires.
Mais ça, c'est cool aussi, c'est vous qui choisissez.
Ouais.
Mais donc, si tu choisis de ne jamais faire de littérature, t'en fais pas du tout.
Alors, c'est le rôle de l'enseignant Montessori.
D'accord.
Parce que le rôle de l'enseignant Montessori, c'est de faire que tous les apprentissages soient intégrés à la fin de l'année. Mmh. Donc, en fait, ils surfent sur l'envie, ils essayent de générer l'envie chez l'enfant en disant, mais en fait, tu sais, regarde ce... Je ne sais plus ce qu'on apprenait en français à l'époque, mais regarde ce... Ou en histoire.
C'est poésie ou...
Oui, ou regarde, l'histoire napoléonienne ou le... Ah, t'as été avec tes parents au château de Versailles quand t'étais le week-end dernier. Bah, regarde, on va... Napoléon, Chateau de Versailles n'ont pas grand-chose à voir, mais regarde, on va étudier Louis XIV.
Ouais.
Et du coup, l'envie de l'enfant, parce qu'il a été faire quelque chose
pour lui,
stimulé, et va apprendre tout ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Galerie des Glaces, qu'est-ce qui s'est passé là.
Ça donne envie de retourner en primaire.
Bah ouais, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Et donc, moi j'avais des enseignants qui étaient très. C'était très doux. C'était hyper bienveillant. C'est des classes qui étaient ultra calmes. Ultra calme, parce que chaque enfant faisait travailler sur quelque chose de différent, donc devait respecter le travail de l'autre. Donc les enseignants Montessori étaient extrêmement exigeants sur le calme qui est nécessaire pour l'apprentissage. Mmh. C'est rigolo, j'ai des frissons quand j'en parle parce que j'ai adoré cette période. C'est scolarité Montessori, je te dis, j'y allais en courant et je repartais pas en traînant les pieds parce que j'étais content de partir aussi. Et j'adorais les récréations évidemment. Mais j'ai ce souvenir d'avoir pu accéder à plein d'apprentissages à mon rythme, avec mon envie. Et voilà. C'est juste ce que je trouve plus mes mots. Et ce que j'aime beaucoup, après ça, bon, j'ai mis aussi mes enfants en Montessori. Et donc j'ai lu un peu sur la théorie, sur comment ça marche, pourquoi c'est ça. Et en fait, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est que, en fait, au lieu de considérer l'enfant comme une tête vide à remplir, ce qui peut être très caricaturalement l'éducation, telle que le professeur est sachant, l'élève a une tête vide, on va lui mettre du savoir dedans, on considère l'enfant comme un potentiel d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne considère pas du tout une tête comme étant vide, on considère l'enfant comme il a un énorme potentiel d'apprentissage. Allons surfer sur ce potentiel, parce qu'on sait que quand on a envie de faire quelque chose, on le fait mieux que quand on n'a pas envie.
Totalement.
Et donc du coup, si c'est bien fait, ça marche très très bien.
Et oui, c'est la preuve, c'est vrai que comment t'en parles, et c'est vrai que j'ai eu Marie Robert sur le podcast, très bon épisode que je vous conseille aussi, qui en a créé plusieurs, et qui est partie du même principe. Et est-ce que t'avais un peu d'activité manuelle ou pas?
Ah, beaucoup.
Parce que moi, ça, je trouve vraiment cool aussi, parce qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les matières académiques et les matières manuelles ou artistiques, comme il existe aujourd'hui une hiérarchie en France, quoi.
Ah ben là, il n'y a pas de hiérarchie dans l'apprentissage. Mmh. La hiérarchie, c'est l'envie de l'enfant.
Ouais.
Donc en fait, est-ce qu'une boîte de maths vaut plus qu'une boîte d'histoire ou qu'un exercice de faire ses lacets quand on est en maternelle? Non, il n'y a pas de hiérarchie du tout. Et en fait, j'ai envie de dire, tout est manuel en Montessori. Moi, j'ai encore l'image de les mathématiques, c'est des petites perles. C'est-à-dire qu'une barre de 10, bah, c'est 10 petites perles, on voit que c'est une barre de 10. Mmh. Il y a le carré de 100, donc c'est 10 barres de 10 collées. Il y a le cube de 1000. Et moi, quand je pense 1000, bah, je vois le cube.
Ah ouais.
Un cube de 10 sur 10, bah, ça fait 1000. Voilà. Et donc il y a 1000 perles dans ce cube. Et si on divise 1000 par 10, bah, je vois que je saucissonne.
T'as une face,
mon...
quoi.
Ouais, je tranche mon cube en disant, bah ouais, j'en ai 10 des plaques de 100 pour 1000. Et donc voilà, c'est comme
donc ça.
Donc
ça développe aussi beaucoup le bon sens, quoi, mine de rien.
Carrément, tout est concret.
Et vous êtes combien par classe?
On était 25, il me semble.
Ok, donc ouais, quand même, je pensais que c'était.
25,
moins
mais
que
sur
ça,
deux
mais...
niveaux.
Ah oui,
sur
c'est
deux
vrai.
Niveaux. Ouais, c'est sur trois niveaux en CP, CE1, CE2 et enfin nous c'était comme ça, hein, je
D'accord.
sais pas si c'est comme ça toutes les classes Montessori.
Ouais.
Et le CM1, CM2, c'était la même classe. Donc deux niveaux et on reste 2 ans dans la même classe. Évidemment.
Non, franchement, c'est vrai que c'est chouette et bon, en fait, c'est bien qu'il y ait juste du choix dans l'enseignement et que ça se démocratise, parce que c'est super qu'il y ait l'école publique, mais c'est vrai que voilà, il y a une autre option. Non, mais qui est intéressante, parce que je pense qu'elle est peut-être. Enfin, en fait, ils ont plus de moyens, vu que c'est vrai que c'est une école payante, rappelons-le. Même si tu le disais, il y en a qui sont sous contrat d'État et qui du
alors
coup.
Celle dans laquelle j'étais, elle est à Roubaix, qui n'est pas la ville non plus la plus riche de France, et elle est sous contrat d'État, donc c'est du privé semi-public. C'est quand même très très mixte dans les classes.
Ouais, et donc voilà, c'est vrai que ça, avoir plus de moyens, ça permet aussi de peut-être être plus à l'écoute de chaque enfant. Enfin, je pense qu'il y a aussi un manque d'écoute quoi, aujourd'hui dans le système scolaire, où si t'es en galère, bah, c'est un peu tant pis pour toi, et prendre des cours particuliers à côté quoi. Enfin, moi c'est un peu le souvenir que j'ai en tout cas du système scolaire dans lequel j'ai évolué.
Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience de ça, ouais. mais si tu le dis.
Mais t'as de l'expérience de ça, parce que du coup, après, en 6e, t'es arrivé en collège normal.
Oui.
Et là, t'as vécu ta transition tout à fait normalement. Ça t'a pas fait bizarre d'avoir un rythme quand même plus rythmé, plus cadré, où là, c'est plus on te dit quoi faire et c'est pas toi qui choisis, tout ça?
En fait, si, ça m'a fait très bizarre. Ça a pas été si simple que ça. Parce que je prends un exemple peut-être très trivial, mais si on a besoin d'aller aux toilettes, on monte des souris, on va aux toilettes.
Ouais.
C'est qu'on se lève, on pose sa boîte d'apprentissage. Nous, c'était un petit collier, on mettait un collier, on allait aux toilettes et on ne demandait pas la permission au professeur. Mmh. Donc il n'y avait qu'un collier, donc on pouvait y aller qu'un à la fois, mais c'était nous qui décidions. Et quand je suis arrivé en 6e et que je voulais aller aux toilettes, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et là, le prof a fait hop, 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 qu'est-ce que vous faites, monsieur Dujardin? Évidemment. Et en fait, là, il y a une question, il y a une incompréhension qui se fait. Et en même temps, on réapprend les règles d'une autre façon de vivre son éducation. Et évidemment, on est obligé de s'adapter parce qu'on ne peut pas ne pas s'adapter. Et tu vois, je mets le mot adapter. Je pense que c'est une des choses qui vient avec Montessori, c'est qu'on apprend beaucoup l'autonomie et l'adaptabilité.
Ouais.
Et donc, en fait, on a le skill adaptabilité en soi et on s'adapte. C'est tout. Voilà. Donc c'était un peu dur, mais j'étais un très bon élève jusqu'à fin de seconde. Après ça, bon, l'adolescence s'est passée par là, et puis j'étais un peu moins bon élève.
Et du coup, écoute, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'était vraiment uniquement la fierté de tes parents à entreprendre dès la sortie de tes études, hein, si j'ai bien compris? Dans quoi est-ce que tu t'es lancé du coup au sortir de tes études?
Alors je pense que vraiment la fierté, la quête de fierté était un moteur très très fort. Très très fort. Encore une fois, c'est une analyse a posteriori, hein, j'avais pas du tout conscience de ça à 23 ans. Après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres moteurs? Oui, l'envie d'être indépendant, l'envie de pouvoir aller de pouvoir se réaliser ou réaliser ses envies, ses projets, ses idées, c'est quelque chose que j'avais chevillé au corps. Et donc ça, c'est des bons facteurs pour être entrepreneur, c'est-à-dire que envie de réaliser quelque chose par soi-même. Et en plus aller dans une quête de fierté, ça m'a amené à monter des entreprises. J'ai pas eu que des succès, hein, évidemment. Parce que
parlons des échecs, entre guillemets, hein, ouais. Échecs, parlons des expériences qui n'ont pas abouti comme tu le souhaitais.
Bah, en fait, oui, c'est quand je dis que j'ai créé cette entreprise, souvent les gens disent waouh, t'es un serial entrepreneur, c'est extraordinaire, blablabla. Et en fait, ça me touche pas du tout parce que je me dis que si Petit Bambou avait été la première, j'en aurais monté qu'une, évidemment.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai été d'entreprise en entreprise. Alors, j'ai pas eu tant d'échecs que ça, mais j'ai pas eu de grands succès non plus. Et en tout cas, j'avais pas nourri ce besoin de fierté. Qui n'était pas nourrissable d'ailleurs pour mon aventure entrepreneuriale, qui était nourrissable parce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais confronté à mes parents à cette idée, là tout d'un coup c'est soigné. Mais oui, j'ai toujours été plutôt dans le monde d'Internet. En fait, il se trouve qu'à la fin de mes études, je suis parti travailler dans la Silicon Valley pendant un an et demi.
Et donc, ça t'a plu cette expérience? Parce que moi j'ai étudié là-bas aussi brièvement. Ah oui. Ça m'a pas du tout plu, je n'ai pas du tout aimé l'état d'esprit, ni la culture, donc je suis curieux de savoir comment tu l'as vécu.
Alors moi j'ai adoré. Adoré, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que je pense que si j'y avais été il y a 5 ans, j'aurais pas aimé du tout.
Ah ouais, c'était ce que j'ai fait.
Voilà. Et moi, c'était en 1999, et c'était avant la première explosion de la bulle Internet. Et là, il y avait un côté Eldorado, tout est possible.
Ouais, tout est à faire.
Et il n'y avait pas encore... Si, il y avait déjà beaucoup d'argent dans la Silicon Valley, mais c'était pas encore la quête de devenir le prochain billionnaire. Il y avait beaucoup d'énergie créatrice. Google existait à peine. C'est rigolo parce que j'ai travaillé dans le même bâtiment que Google d'ailleurs. Et nous, on était une société avec 300 personnes et ils étaient 30. Donc,
limite, et c'est une société que tu as montée?
Non, j'ai pas monté.
D'accord,
non.
Ok.
Non, là, c'est. Non, j'étais salarié.
Donc tu as été salarié?
J'étais salarié deux fois.
Ouais, quand même, moi jamais. Ouais, non, mais en plus,
je me suis fait virer deux fois pour tout te dire.
Ouais. Et c'est là où tu t'es rendu compte qu'en fait, fallait que tu montes ta boîte.
Ouais, exactement. Exactement. C'est, oui, parce qu'en fait, cette énergie débordante que j'avais de créer plein de choses ne peut pas être accueillie par toutes les entreprises. Donc en fait, c'est juste qu'il y a une adéquation. C'est pas du tout une question de personnalité, ni une question de management. Il y a juste une adéquation entre le projet d'une entreprise à laquelle je contribue et le projet que je veux créer. Qui est sur une toute autre contribution. Donc ça ne pouvait pas marcher, tout simplement.
Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait très recherché, au contraire, une énergie débordante dans le salariat, tu vois.
Bah oui.
Parce que c'est des profils qui, du coup, ont tendance à monter leur boîte.
Ouais. Ouais. En fait, moi, j'aime beaucoup cette idée de contribution là-dedans. C'est que, en fait, quand on travaille, on contribue à un projet. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce à quoi on contribue.
Mmh.
Est-ce qu'on contribue à rendre le monde digital et peut-être impersonnel ? Et on peut être OK avec ça. Moi, je ne suis pas du tout OK avec ça, mais on peut être OK. Ou est-ce qu'on contribue à quelque chose qui correspond à nos propres valeurs ? Tu vois, toi, tu éveilles les consciences sur reprendre le pouvoir sur sa vie. Et c'est une contribution qui est magnifique. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi dire que ce n'est pas ton idée. En fait, c'est une idée. Et tu te mets au service de cette idée, tu le fais avec avec tout ton talent et toute ta puissance, j'ai envie de dire. Et ça, c'est important de savoir. C'est-à-dire, quand on travaille dans une entreprise, il faut savoir ce à quoi on contribue. Parce que ça, pour moi, c'est un vrai guide vers quelque chose qui se rapproche du bonheur. C'est-à-dire que si à la fin de notre vie, on s'éteint en se disant « j'ai contribué à quelque chose que je trouve très juste pour moi », on peut s'endormir en disant, bah voilà, j'ai servi à quelque chose, ou je sais pas, bon, j'ai pas.
Je suis en paix, quoi.
Je suis en paix, exactement. Alors que si on se dit, on se rend compte au cours du chemin qu'on a contribué à quelque chose qui, en fait, ne résonne pas, soit est négatif par rapport à son système de valeurs, c'est terrible.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai pas travaillé pour des entreprises qui ne correspondaient pas à mes valeurs, mais j'avais plus envie d'apporter ma contribution à ces entreprises-là. Donc, en fait, simplement, mon chemin, il doit s'écrire autre part. Et évidemment, donc moi j'ai des collaborateurs chez Petit Bambou, je les invite énormément à se poser la question, c'est ce à quoi vous contribuez, c'est ça, est-ce que ça vous plaît de contribuer à ça ? Et si ça vous plaît pas, vous devez à vous-même, pendant le temps que vous êtes vivant, d'aller contribuer à quelque chose qui vous fait kiffer. Et ça se passe plutôt bien, ça se passe même très bien chez Petit Bambou, parce qu'en fait, la contribution à la santé mentale, ou j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas à l'équilibre personnel des gens.
Non, mais moi non plus. Ouais. Et en fait, j'en parle parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et je fais pas mal de contenu à ce sujet. Vous n'avez pas réfléchi à un autre mot pour aborder le... Parce qu'en fait, tu vois, en anglais, mental health, ça me choque pas, tu vois. Mais santé mentale en France, en français, il y a un côté très psychiatrique,
un peu, ouais.
qui est un peu dérangeant, quoi. Alors que...
Et puis même le mot santé est très connoté, le mot santé est régi par le ministère de la santé, santé mentale. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là? Donc en fait on se perd un peu là-dedans, non, j'aime pas trop non plus.
Parce que tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée de la santé mentale.
Ah bon?
Ouais. Ah oui, faites un truc sur ce petit bambou quand même. On voit un petit message là.
Ouais, ou pas.
ou pas. Non, c'est sûr. Mais c'est en plus, j'aime pas les journées d'eux, mais je trouve que c'est juste une occasion de sensibiliser d'autant plus à... Donc c'est toujours intéressant de le faire, mais écoute, soit il faut démocratiser le mot, c'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire j'en parle, santé mentale. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ça deviendra, tu vois, accepté.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un autre terme.
C'est vrai que déjà se mettre d'accord sur la signification des termes, c'est tout un sujet. Hein. Ce terme de santé, il est quand même très... il est très beau. C'est-à-dire que santé, c'est... On veut que les humains, que le vivant, n'a qu'à dire, on va élargir un peu au-delà des humains, que le vivant aille bien. Et que le vivant aille bien, c'est dire corporellement aller bien, ça veut dire se défendre contre les virus parce que sinon on meurt, et que les gens aillent bien aussi dans leur tête. Donc on a qu'ils soient suffisamment équilibrés pour prendre le... Pour prendre le pouvoir sur sa vie. Ah. j'ai pas préparé.
In power,
exactement. et donc c'est un très beau mot, la santé. C'est un très beau mot. Et donc la quête d'une bonne santé, qui est jamais, encore une fois, on n'arrive jamais à une bonne santé, c'est toujours un déséquilibre, parce qu'on peut retomber, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas là-dessus. Mais cette quête d'une bonne santé, d'une bonne éthique personnelle, d'une bonne harmonie personnelle, c'est très très beau. Donc santé mentale, on pourrait dire harmonie intérieure.
Harmonie intérieure, voilà. C'est pas mal. Ouais. Mais bon, en fait,
ça fait un peu plus intello, quoi.
Un peu plus spirituel. Alors que santé mentale, je trouve qu'aussi ça pose les bases, quoi. C'est en fait, on ne devrait pas avoir honte de parler de ça. Et je pense que c'est un thème qu'on n'aime pas trop, justement parce qu'il est un petit peu dérangeant. Alors que on parle beaucoup de santé physique, mais moi je trouve qu'on parle pas assez de santé mentale. Tu vois, les campagnes de pub à la télé, c'est manger 5 fruits et légumes par jour pour votre santé, faites une activité physique régulière. Bah ouais, mais en fait, pour votre santé, peut-être aller voir un psy, faites de la méditation. Enfin, il y a pas, c'est peut-être moins tangible ce qu'on peut faire pour sa santé mentale, mais c'est tout aussi important.
Oui.
Et je trouve que la santé publique ne s'en saisit pas assez, quoi.
Ça arrive, hein. Ça arrive, hein, parce qu'en fait, moi je pense qu'il y a une clé pour notre santé mentale, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire que la santé physique, prendre le temps de s'entretenir physiquement et prendre du temps aussi, mais la santé mentale, on oublie un peu, parce qu'on a beaucoup de polluants intentionnels en ce moment dans notre société dite moderne, et donc du coup, on oublie de s'occuper de ça. Et donc, ouais, ce serait bien qu'il y ait des pubs en disant « prenez 10 minutes par jour pour vous ».
C'est vrai.
Genre stop, on éteint les écrans, on éteint un petit bambou, on éteint tout. Et 10 minutes. Un peu comme 5 fruits et légumes par jour.
Bah, 10 minutes
pour regarder où vous en êtes.
Bah, écoutez, s'il y a des politiques qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Prenez 10 minutes par jour.
Et quand est-ce que tu as eu cette réalisation, toi, que... Parce qu'en fait, avant même de parler de petits bambous, tu vois, tu m'as dit, moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas machin. C'est un choix de ta part. Est-ce que tu as remarqué vraiment que ça... Parce que, en fait, moi, je remarque, hein, ça... En fait, d'un côté, j'aime bien évidemment, parce qu'en plus c'est un outil de travail, et que je trouve qu'on peut partager des messages, enfin, ça a plein de bénéfices, mais c'est vrai que ce qui m'énerve là, et j'essaie vraiment de un peu lutter contre ça, c'est la capacité d'attention.
Ah oui.
Tu vois, en fait, quand je parle, franchement ça va, tu vois, je peux rester concentré, que ce soit des vidéos, des conférences, etc. Mais par contre, si je suis pas en train de faire quelque chose, ah bah moi je vais très mal. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que mon esprit soit stimulé. Et je suis sûre que c'est en grande partie à cause des écrans, quoi.
Ouais, bah c'est, t'as tout à fait raison. Hein. T'as la réponse dans ta question, en fait. Hein. Moi, ce que j'ai vécu avec les réseaux sociaux, c'est que je me suis rendu compte que ça remplissait tous mes vides. C'est-à-dire que dès que j'avais... Je suis aux toilettes, hop, pouf, je regarde un truc. Et d'ailleurs, je vais faire peut-être une petite aparté. Je déteste ce qu'on appelle ça des réseaux sociaux. Ouais, c'est des réseaux complètement asociaux. Faut dire,
On devrait appeler ça des plateformes virtuelles, en fait. Hein.
Ouais, des plateformes virtuelles où, où on nous pousse du contenu et TikTok. Et pour moi, celui qui est allé plus loin là-dedans.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est, on pousse des trucs, on zappe, il y en a partout. Et c'est pas du tout quelque chose pour nous relier. Alors, on pourrait dire que ça nous relie une certaine forme de connaissance. Mais quand on voit la qualité des contenus proposés, on peut en douter. Mais
D'où l'importance de se former à un bon algorithme.
Ouais.
Mais en effet, tu as raison, il y a quand même des très bons contenus éducatifs.
Absolument, absolument. Donc si on remplit ces vides, les vides de nos vies par l'accès à de la connaissance, là, bah, évidemment, c'est super, c'est génial et c'est un outil magnifique. Si on le remplit par du trash... Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui arrive à tout le monde, on va pas se mentir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, là, peut-être que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir sur moi, j'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants, j'ai besoin de prendre du temps pour une lecture, pour apprendre une nouvelle façon de penser, ou pour aller jardiner dans mon jardin. Donc, j'ai enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone. Et alors, il se trouve que j'aime bien parce que je fais des allers-retours. C'est pas comme des grands déclics où on dit faut les enlever. Alors moi j'utilise quasiment que Facebook parce que je suis vieux, mais je l'ai enlevé de mon téléphone, je l'ai remis parfois parce que le vide devenait trop angoissant. Mais en fait j'ai trop de place, ce qui est assez génial de se rendre compte de ça, parce qu'en fait on en a de la place quand on enlève ça. Et puis donc je l'ai remis, puis je l'ai enlevé. Je sais pas s'il est en ce moment, ça fait longtemps. Je crois qu'il est sur mon téléphone d'ailleurs.
Facebook. Mais pas mal de gens font des allers-retours en vrai.
Ouais, ouais. Faut accepter ça en fait.
Ouais, c'est ça, faut accepter ça. Sa façon de faire. Ouais.
Tout va bien. Mais réinviter de l'espace, réinviter du temps long dans nos vies, je pense que c'est vraiment c'est un des challenges de notre société moderne. On a quand même des gens qui fabriquent des algorithmes pour nous prendre notre attention. Et ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de moyens. Donc si nous on décide pas intérieurement de se réautoriser de l'espace, bien sûr qu'on va se faire manger par ces gens.
Mais est-ce que le problème, et là je pars un peu loin, mais est-ce que le problème au fond, c'est pas le capitalisme ? Parce que pourquoi est-ce que des personnes travaillent pour capter notre attention ? C'est pour gagner plus d'argent. Et en gros, moi je suis pas anti-système du tout, mais je trouve que en fait c'est un peu comme les entreprises. Je sais pas si Petit Bambou est une entreprise à mission, mais en fait je trouve ça super qu'ils aient développé ce statut, parce que du coup c'est clairement, voilà, nous notre but premier c'est pas de faire du profit.
Ah oui, mais on est complètement une entreprise à mission.
Voilà. Notre but premier c'est d'avoir un impact sur la société. Et en fait, si on était une société à mission, Bien sûr, l'argent te permet justement de développer ta mission, de développer ton projet, d'embaucher des gens. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, notre société est quand même pas mal régie par l'argent pour faire de l'argent.
D'où la nécessité de reprendre sa liberté là-dedans. Et de savoir ce à quoi on contribue. Je vais reboucler sur ce que je disais. Quand on confie son pouvoir professionnel, son pouvoir d'exécution professionnelle à une société qui ne correspond pas à nos valeurs, en fait, on abonde dans un système qu'on n'aime pas. Donc reprendre sa liberté et reprendre ses choix pour soi me paraît vraiment hyper important. Et encore une fois, on ne va pas se flageller. Tu vois, là, je vais peut-être partir un peu loin sur le capitalisme, mais c'est toi qui m'y invites.
Ouais.
Le rêve de la société tel qu'il a été imposé, peut-être, je ne sais pas, dans l'après-guerre, c'était la croissance. C'est la croissance qui nous apportera le bonheur. Et donc, en fait, on a 80 ans d'historique, peu ou prou, là-dedans, où en fait, la croissance est presque la seule valeur. Et c'était le projet de société, le projet de tout le monde. Et quelque part, à la fin de la guerre, il avait du sens, ce projet.
Bah oui, après la privation, ouais. Tu aspires qu'à une chose, l'abondance.
Ouais. Et maintenant qu'on voit que cette croissance, tous azimuts, détruit une partie de notre, j'ai presque envie de dire, de notre humanité, en polluant notre attention, et détruit en tout cas beaucoup le vivant, ouais. La planète et tout ça, il faut qu'on réinvente un nouveau rêve.
Ouais.
Mais pas, qu'il ne soit pas un rêve de croissance, qu'il soit un rêve d'harmonie, qu'il soit un rêve de... Voilà. Donc il faut que collectivement on le fasse. Ça va être compliqué parce que, ouais. Parce que ça, on est à 80 ans d'historique de capitalisme qui nous a vendu que c'était ça la voie.
Mais
allons-y, ouais. Allons-y tout doucement. On n'a pas besoin de révolution. C'est d'abord une révolution intérieure. Bah voilà, moi j'enlève ces réseaux sociaux, je passe plus de temps dans le vivant. Voilà. Et plus on sera à faire ça, bah plus le rêve de la société va prendre forme. Et si on attend que ça vienne des politiques, ça viendra. Enfin, de toute façon, le jour où ils n'auront plus le choix, ça viendra. Mais on peut commencer le chemin sans attendre que ça vienne de décisions politiques.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que, en effet, ça fait 80 ans qu'on a ce modèle de société. Ça fait aussi 80 ans qu'on connaît, en tout cas dans le monde occidental, la paix.
Ouais.
Est-ce qu'au final, un nouveau modèle de société n'apparaît pas qu'après une guerre ?
J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse
à ça. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut réinventer un rêve, il faut... de l'espoir, une harmonie. Et c'est qu'en fait, là, je pense que comme... Bon, alors, il y a
on
la guerre...
On va pas souhaiter une guerre, quand même. Hein.
Non, non, on va surtout pas souhaiter une guerre. Mais de toute façon, il y a une guerre, malgré nous, en Russie et en Ukraine. Tu vois, c'est quand même des pays proches de nous. Et on sait pas ce que ça va donner. Et en fait, je pense que c'est difficile d'instaurer un nouveau rêve dans une société qui n'est pas vraiment fracturée. Parce qu'en fait, il y aura toujours des gens pour fermer les yeux, il y aura toujours des gens pour dire « Non, mais là, ça va très bien, oui, il y a des problèmes, et comme tout le temps, etc. » Alors que c'est vrai qu'en fait, quand tu as une vraie rupture, d'ailleurs, c'est pas forcément une guerre, ça peut être, je sais pas, un vrai changement politique, ou ça peut être, même un événement climatique qui nous fera vraiment prendre conscience qu'il faut peut-être qu'on ait un nouveau rêve.
Ouais. Bah, t'as dit le mot, hein. Pour moi, c'est conscience. Moi, j'appelle vraiment de mes voeux que la transition se fasse de manière plus douce, que ça peut qu'une guerre ou qu'un désastre écologique ou que est-ce que j'y crois ou pas, genre à la limite peu importe, mais bon, t'as la réponse à ma question, j'y crois pas beaucoup, mais œuvrons quand même pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience. En fait, il y a quand même des indicateurs qui sont incroyables. C'est-à-dire que le pays pour moi qui symbolise le plus la croissance, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique. L'espérance de vie descend aux États-Unis. C'est complètement incroyable. Le bonheur, le produit, le bonheur brut
le
intérieur,
ou je sais plus comment ils appellent ça.
Descend aussi énormément. Ouais. C'est-à-dire que en fait, la croissance n'est pas
corrélée au bonheur.
Ouais, n'a pas livré ce qu'elle était censée livrer. Mais peut-être qu'elle a livré la paix. Donc en fait, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Bah oui, bien sûr. Et puis elle a quand même permis d'augmenter le niveau de vie, mais elle a creusé l'inégalité. Donc en fait, il y a pas de modèle parfait dans tous les cas.
Si ça augmente le niveau de vie pour générer du malheur, en fait, ça sert à rien.
Ouais, c'est vrai.
Allons cultiver nos tomates.
Ouais, c'est
ira beaucoup mieux. Et alors, quand je dis ça, souvent on me dit mais oui, t'es gentil, mais toi t'as réussi et vous avez raison. En fait, c'est que j'ai joué ce jeu-là aussi. J'ai joué ce jeu-là pour rendre mes parents fiers, mais c'est aussi un jeu de croissance. Jeu que j'ai arrêté de jouer là. Petit bambou, on n'a jamais vraiment joué ce jeu-là, mais parce qu'on a pris conscience un peu avant, notamment grâce à notre pratique méditative. Mais moi j'appelle qu'il y ait une révolution par la conscience. C'est-à-dire qu'on se dit, non, c'est pas possible de tuer tous ces animaux, c'est pas possible de détruire notre environnement dans lequel on vit. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, ce qui est incroyable. Et le jour où on aura cette conscience-là et qu'on admirera plutôt les gens qui prennent soin plutôt que les gens qui
détruisent
et qui accumulent, Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. On aime encore voir les Elon Musk et tout ça. Je ne dis pas qu'il détruit, enfin encore que SpaceX.
Le tourisme spatial, on aurait pu s'en passer. Hein.
Ouais, non, mais je ne suis pas là pour le pointer du doigt, je veux dire, mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Mais tant qu'on admire ces gens-là juste pour leur réussite capitalistique et la taille de leur portefeuille,
tout à fait.
Je pense qu'on se trompe. Il faut qu'il y ait des nouvelles figures qui émergent. Mm-hmm. Et il y en a eu dans l'histoire, hein, des figures qui émergent. Il y a des Abbé Pierre, il y a des gens qui ont émergé comme ça, qui n'étaient pas du tout dans cette démarche capitalistique, qui étaient plutôt dans la démarche de je mets mon énergie en contribution à quelque chose qui me semble juste, qui est la fraternité, qui est l'entraide, et qui ont été des figures qui ont entraîné derrière eux des gens qui ont envie de contribuer au même projet. Donc en fait, ça peut se passer. Non, il faut que ça soit un peu plus massif que simplement une personne une fois de temps en temps.
Bah c'est ça, parce que comme tu dis, il y a eu des Abbé Pierre, mais c'était pas des modèles de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les personnes auxquelles on aspire à ressembler, c'est, enfin, je parle encore une fois, c'est une généralité, une vérité générale, mais les Kardashians, quoi.
Ah non.
Mais c'est des modèles de, enfin, ce n'est pas mon cas et c'est pas le cas de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, j'imagine. Et en plus, c'est pas pour blâmer les Kardashians, mais ce que je veux dire, c'est que, au final, ce sont les personnes les plus influentes du monde occidental. Enfin, tu vois,
pour moi, c'est dramatique, ça.
C'est dramatique. T'as raison. Et en fait, je trouve qu'elles devraient, elles-mêmes, devraient plus parler de santé mentale, parce que je suis sûre qu'elles sont pas heureuses, quoi. Ou en tout cas, que c'est pas facile du tout tous les jours. Et il faut créer, en fait, voilà, quand on crée un nouveau rêve, c'est vous créer de nouveaux rôles modèles, en fait.
Alors, j'allais dire, on peut toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est-à-dire que les figures qui nous inspirent viennent de l'extérieur. Mais ça peut venir de l'intérieur aussi. Donc, tant qu'on admire les Kardashians, enfin, je ne sais pas pourquoi on admire ces gens-là d'ailleurs, c'est par leur capacité à acheter plein de trucs. Enfin, je ne sais pas trop. Bah, en fait, je ne les connais pas suffisamment bien pour avoir un jugement.
Moi, je sais un peu pourquoi elles sont admirées. C'est que, un, elles se sont fait toutes seules, même si c'est dans des circonstances un peu douteuses. Elles ont du coup aujourd'hui tellement d'argent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et elle lance des tendances, enfin voilà, mais c'est notamment c'est l'argent en fait. Avant tout, c'est l'argent hein, qui.
Pas du tout, c'est un mythe. Hein, l'argent qui apporterait la liberté, c'est un mythe total.
Ouais. C'est l'argent apporte la liberté dans une certaine mesure, mais elle apporte pas forcément le bonheur. Bah, mais on peut pas dire qu'elle apporte pas la liberté.
Ils sont obligés de se balader avec des gardes du corps. Hein.
Alors oui, mais quand on parle de c'est la notoriété plus que l'argent qui fait ça, tu vois. Parce que tu as des milliardaires qui sont connus, enfin qui sont c'est inconnus vrai, au bataillon et qui sont hyper libres.
C'est vrai. Mais je trouve que ce qu'on projette sur ce que peut apporter l'argent s'avère souvent faux une fois que l'argent arrive.
Oui.
C'est-à-dire qu'on parle aussi de l'argent, ça apporte la sécurité. Bah, Steve Jobs est mort, en fait. Donc bonjour la sécurité.
Et alors tu vois, je permets de faire un mini. Alors je fais un mini aparté, hein, mais j'en parle parce que. Enfin bon, garde vraiment ce que tu as à dire, hein, mais il y a deux choses que j'ai envie de placer. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de les placer. on y reviendra. Mais en gros, il y a deux trucs que je voulais dire. Il y avait un, le fait que tu parles de révolution de la conscience. Je trouve ça très juste. Et c'est pour ça que peut-être les auditeurs et les auditrices d'InPower ont remarqué que j'ai reçu pas mal de personnes dans le secteur du développement personnel ou de la spiritualité dernièrement. Parce que moi, j'y croyais beaucoup à cette révolution de la conscience. J'en reviens pas mal, mais je suis contente d'avoir exploré et je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, notamment cette histoire de conscience, et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui en parlent aujourd'hui, parce qu'ils veulent créer une vraie révolution, une nouvelle reconnexion au vivant. Mais tu vois, notamment médicalement parlant, en fait, je pense que c'est assez dangereux. Le discours assez naturel, on va dire, qu'on entend. Je dis pas qu'il n'y a rien à apprendre, mais ouais. Tu vois, j'ai découvert moi que Steve Jobs était mort de son cancer parce qu'il était persuadé qu'il pouvait les guérir avec des jus de carotte.
Alors c'est un cancer du pancréas, on n'en guérit pas vraiment. Hein, donc
d'accord, mais il a refusé tous les traitements et après c'est peut-être son choix, mais en tout cas il était persuadé qu'il pouvait, parce que t'as quand même certains courants du monde holistique, on va l'appeler comme ça, qui défend l'idée qu'on peut guérir le cancer avec des jus, quoi.
Ouais,
je sais que c'est pas ton cas. et c'est d'ailleurs très bien d'en parler, mais voilà, ouais. Je voulais juste dire ça, je sais même plus pourquoi. Hein.
Non, mais c'est bien ce voilà. Que tu dis, parce qu'en fait, il m'appartient pas de juger ce que tu dis, mais je trouve ça très bien ce que tu dis. C'est qu'en fait, on a prononcé beaucoup le mot révolution ici. Et on attend quelque chose de. Une révolution, c'est spectaculaire, c'est brutal. C'est souvent, c'est, d'ailleurs, dans l'histoire, après des révolutions, il y a eu des régimes liberticides. Hein, c'était plutôt des dictatures qui émergent des révolutions. Donc,
on peut enlever le R.
Ouais, exactement. En fait, c'est pas une révolution. C'est-à-dire que c'est pas l'allopathie en santé ou les jus de carottes. En fait, bien sûr que c'est les deux. Bien sûr que c'est les deux. Et faire une prise de conscience sur célébrer le vivant, tout ça, ne nous empêche pas de nous guérir. Et évidemment que les antibiotiques, c'est bon, et ça a sauvé des vies. Évidemment, il n'est pas question de tout jeter. C'est-à-dire que dès l'instant où on va dans un extrême, on se trompe. Mmh. Donc vouloir faire une révolution brutale en pensant que ça va arriver, je pense que c'est faux et ça n'arrivera pas. Par contre, une révolution intime, en soi. Voilà, moi, c'est quoi ma conscience du monde, qu'est-ce que je veux apporter à ce monde, c'est quoi ma contribution à ce monde, qu'est-ce qui fait sens pour moi, en écoutant vraiment les petits signaux faibles, les petits papillons au fond du ventre qui se disent mais non, mais c'est pas possible que j'ai agi comme ça sans se blâmer. Disant, par contre, j'invite un nouveau comportement pour que ça change. Et plus on sera à faire ça, plus on fera. Moins on consommera de produits qui sont nocifs pour la santé, mieux on se portera, voilà, et mieux la planète se portera. Et voilà. Et donc, vraiment engager ce mouvement au niveau personnel d'abord, et puis en fait le niveau personnel quand il est très incarné, s'il est réel, en fait il attire, il inspire, et c'est ce que tu fais sur ton podcast, hein. C'est inspirer des gens pour qu'il se passe quelque chose qui soit un peu plus global que simplement son
on veut du vrai, c'est moi. Alors, en fait je suis jamais en général, mais comme je l'ai perdu quand t'es arrivé, je me suis dit bon bah je vais mettre le son, mais c'est pas grave, j'aurais pas le.
Donc n'attendons pas une révolution externe, ouais. Faisons une révolution interne sur notre façon de penser, notre propre conscience. N'attendons pas grand chose des autres, en fait, sinon on risque d'être déçus.
T'as raison.
Inspirons-nous des bonnes choses et pour se mettre en mouvement.
T'as raison, mais le problème, c'est que je trouve que tu es peut-être. Je te trouve, et Dieu sait que je suis naïve, mais je te trouve trop naïf sur la capacité des personnes à s'auto-conditionner ou s'auto-discipliner, on va dire, parce que faut pas sous-estimer le rôle de l'influence. Oui. Des rôles modèles. Et donc, en fait, tant qu'il n'y aura pas de nouveaux rôles modèles, ben, en fait, tu vois, des personnes qui n'écoutent pas ce podcast, eh ben, en fait, elles vont continuer à regarder les Kardashians et elles vont continuer à aspirer à avoir beaucoup d'argent et à accumuler et à faire l'amalgame entre le matériel et le bonheur. Et donc, je pense qu'il y a aussi un vrai rôle, mais de pas mal d'acteurs, en fait. Pour moi, bien sûr, ça vient de nous. Et de toute façon, commençons à agir en nous-mêmes parce que, voilà, comme ça, au moins, on gagne du temps. Mais tu vois que les médias relaient aussi peut-être plus de figures engagées ou en tout cas de ce dont on est en train de parler, que les politiques en parlent aussi et parlent de croissance responsable. Enfin, tu vois, et je pense qu'il y a un rôle, en fait, à toutes les strates, tu vois, de la société.
Absolument, mais j'appelle vraiment ce que tu dis de mes voeux. Mais c'est peut-être quelque chose qui résonne en moi, c'est que je ne vais pas cultiver la frustration que ça ne se passe pas, ou utiliser la frustration du fait que ça ne se passe pas pour ne pas commencer par moi.
Oui. Et ça, tu vois, je trouve ça génial, notamment par rapport au problème environnemental, parce que je crois que j'en ai parlé dans ce podcast, mais moi je suis revenu d'un festival il n'y a pas très longtemps avec d'autres créateurs de contenu. Et en fait, j'ai passé le dîner un peu essayer de les convaincre de parler de protection écologique, quoi, sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes, bah, on vient pas du même milieu social et tout. Et en fait, il y a un mec, Fares, avec qui je me suis super bien entendu, et qui me disait, mais en fait, Louise, moi, pourquoi je me ferais chier à changer mon mode de vie et mon mode de consommation, alors que dans tous les cas, il y a plein de gens qui le font, et que Amazon ceci, et que Coca cela, et en fait, ça sert à rien. En fait, c'est très dur, tu vois, de leur dire, si, ton petit pas, ils contribuent à l'humanité. Mais moi, je leur dis, écoutez les gars, on parle en plus, voilà, on parle de personnes qui ont des millions d'abonnés, etc. Donc, vous avez un rôle à jouer, mais c'est vrai que c'est un peu dur de leur dire, enfin, tu vois, pourquoi lui, il se priverait de prendre l'avion, alors qu'en fait, derrière, t'en as qui se privent pas, et notamment des puissants, tu vois. Et c'est un peu ça leur discours. Mais donc, j'aime beaucoup ce que tu nous partages là, parce que toi, tu dis un peu, ben moi, j'attends pas que les autres agissent. En fait, j'agis à hauteur de ce que je peux faire, parce qu'au moins, comme ça, je contribue, quoi.
Absolument, c'est agir à sa propre puissance. C'est-à-dire que si on a beaucoup de puissance, il faut agir beaucoup. Donc on attend des puissants qu'ils le fassent. Moi, j'ai une certaine forme de puissance quelque part. Toi, tu as une puissance ici médiatique. Agir à sa pleine puissance pour bouger ça. J'ai quand même une réflexion par rapport à ce que tu dis sur le. Enfin, c'est pas du tout en opposition, tu vas voir, c'est vraiment.
Oui, mais ça l'était, tu pouvais. Hein.
Ça va dans le même sens. En fait, moi, je pense que quand on agit. Et enfin, quand c'est un mouvement qui vient de l'intérieur et qu'on agit aussi petit soit notre contribution, c'est-à-dire que oui, moi je prends un avion tous les 4 ans max, c'est mon contrat avec moi-même et ça baissera. En fait, c'est un kiff. Et donc, j'ai presque envie de dire, si vous ne le faites pas pour la planète, si vous ne le faites pas pour les autres, si vous faites-le pour vous, c'est un kiff. C'est un kiff de se dire, j'ai contribué à ma mesure A. Mmh. Et donc, se connecter à ce kiff et à cette... à cette douceur qu'on se fait à soi-même de faire ça. Et est-ce que ça nous apporte? Je sais peut-être un exemple un peu couillon, mais on est en voiture, enfin je roule en vélo maintenant, mais c'est un exemple que je prends depuis longtemps. On roule en voiture, si on s'arrête pour laisser traverser quelqu'un qui est pressé ou une vieille dame, en fait, à qui on fait plaisir? Est-ce qu'on fait vraiment plaisir à la vieille dame qui traverse ou est-ce qu'on se fait plaisir à soi? Quand la vieille dame passe et puis elle dit merci monsieur, alors que moi j'ai un rendez-vous et je suis pressé comme tout le monde, voilà. Si on reçoit le merci monsieur, à qui c'est? Le plaisir, il est celui qui s'arrête.
Mmh.
Et la vieille dame, c'est super, au vieux monsieur, évidemment. C'est super, il y a des gens qui s'arrêtent et tout ça, mais moi, si je me connecte à ce que ça me fait de m'être arrêté et d'avoir laissé passer cette dame, eh ben, ça me fait du bien.
Mmh.
Pourquoi je me priverais de ce bien? Parce qu'il y en a d'autres qui passent et qui klaxonnent, et puis voilà. Se connecter au kiff de faire sa part, tu vois, à sa propre puissance. Et si on n'est pas très puissant, ben, y a plein d'endroits où je ne suis pas puissant, ben, je le fais quand même à ma puissance, même si elle est petite. Et si elle est grande, ben, surtout, il faut le faire grand. Se connecter au kiff est un moteur formidable. Et donc, encore une fois, se connecter à la frustration de voir d'autres personnes prendre l'avion m'empêche de vivre mon kiff que moi, je ne le prends plus.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, tout à fait.
Et donc, c'est passer par ce kiff, passer par ce plaisir qu'on se fait à soi-même en contribuant.
Mmh. Mais pour ça, il faut être convaincu.
Pour ça, il faut que ce soit un mouvement d'intérieur.
Voilà, il faut que ça vienne vraiment d'une...
Mais on va être obligé de le faire, le mouvement d'intérieur. Ah ouais. De notre planète en train de mourir. Donc, il y a un moment où on va être obligé de se connecter.
Ouais, ouais.
Donc,
non, mais c'est vrai que c'est un peu...
Vite.
Ouais, ouais, c'est un peu frustrant, en fait, de pas voir d'action de grande ampleur de la part de personnes de qui on l'attend, quoi.
Mais plus il y aura de mouvement intérieur individuel...
Mm.
J'ai presque envie de dire, si on prend un système politique, plus il y a de gens qui pensent ça et qui ont éveillé leur conscience, plus les votes se dirigeront vers des gens qui portent ces sujets-là.
Ouais.
Donc faisons-le pour voter pour les bonnes personnes. Qui existent peut-être et qui n'osent pas parler.
Mmh.
Parce que,
qui n'ont pas envie d'aller en politique parce que ça n'a quand même pas l'air très sympathique. Oui. Hein, mais on a besoin de vous.
Ouais, exactement. On les critique beaucoup, mais est-ce qu'on voudrait du job? Je suis pas
sûr. Ouais, c'est ça. Non, bah, moi, j'en ai bien conscience.
Ouais.
Bon, alors parlons quand même un peu de Petit Bambou. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Petit Bambou? Et même avant ça, qu'est-ce qui t'a motivé à créer la page Facebook que tu as créé avant l'entreprise?
Alors j'ai créé une page Facebook parce que je savais comment créer des communautés, donc je me suis dit, donc c'était dans mon engagement professionnel précédent.
Qui était
une société qui s'appelle Archie Pédago Publishing, qui faisait des sites internet de contenu et qui avait un business model publicitaire.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on faisait du trafic sur le site et puis on vendait de la pub. C'était pas ma meilleure contribution. Encore que je l'ai fait avec des gens très bien. Donc du coup, on a bien fait ça. Bon, bref, donc j'avais appris à créer des communautés pour générer du trafic sur les sites. Et je me suis dit, je vais utiliser cette compétence de savoir créer des communautés Facebook pour un projet perso qui est très connecté à ce que je viens de dire. Tu fais des transitions tu me facilites toutes mes transitions.
Ah écoute, merci. C'est gentil.
Qui est de faire ma part. Faire ma part, c'était d'essayer de, sur cette page, de parler de philo, de parler de kiff, de parler de petites choses de la vie qui réenchantent le quotidien. C'était de faire une espèce de d'îlot de... Ben Marie-Robert fait ça, mais elle fait ça beaucoup mieux que moi. Je la lis tous les jours, je suis complètement fan de ce qu'elle fait. De petites choses qu'on lit et qui font du bien. Voilà. Donc je me suis dit, je vais faire ça. J'ai pris cet avatar de Petit Bambou. Et c'était un projet qui était... j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment... Il y a pas mal de gens qui ne me croient pas, mais c'est vraiment vrai. Je ne voulais pas du tout que ce soit un projet professionnel. C'était un projet perso.
Mmh.
C'était ma page. J'avais décidé de jamais gagner de l'argent avec ça. Juste pour le kiff de partager des choses positives. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon associé est venu me voir 3 ans après ou 4 ans après cette page. Alors cette page a eu beaucoup de succès, il y a eu 1 million de fans. On n'appelait pas ça encore influenceur à l'époque, mais ça ressemblait à ça.
Ouais.
Sauf que comme je ne vendais pas de pub ni rien, je ne voulais pas de revenus, c'était influenceur.
Y a pas mal d'influenceurs qui font même pas de...
Bon, voilà, très bien. Très bien. Et mon associé est venu me voir. Lui, il s'était mis à méditer pour des raisons qui sont les siennes.
Vous connaissiez avant?
Oh, on se connaissait depuis 20 ans. Et il m'a dit, écoute, si toi, ton but de réenchanter ou de remettre du positif dans la vie des gens, si on met de la méditation là-dedans, les gens vont réapprendre à porter leur attention sur ce kiff et ça va faire quelque chose qui va avoir beaucoup plus de puissance que une simple page Facebook. Et j'ai écouté ça parce que c'est un mec super intelligent et inspirant de certaines façons. Et je me suis dit, oui, bah, très bien. Plutôt que de rester avec mon petit projet perso, très bien, bah, faisons-lui prendre une ampleur plus importante grâce à la méditation. Et donc, on a construit ce projet Petit Bambou, qui est une application maintenant qui est connue comme une application de méditation de pleine conscience, mais qui va un peu plus loin que ça, en fait. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est participer de notre mieux en fabriquant un outil à aider les gens qui cheminent vers l'équilibre à trouver des bonnes choses. Ça fait une phrase un peu complexe, mais il y a beaucoup de choses dans cette phrase. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en injonction, on ne dit pas du tout « il faut méditer », c'est bien de méditer, normalement on ne dit pas ça. Ça arrive que des fois, il y ait des choses qui partent du département marketing que je ne contrôle pas et que je ne vois pas, mais normalement on ne dit pas « la méditation c'est bien », on ne dit pas que tu as besoin de méditer, on ne dit pas, qu'il faut absolument, je ne sais quoi, pour mieux dormir, méditer, ça sera super, faut être moins stressé, ce n'est pas du tout notre énergie. Notre énergie, c'est de faire un outil pour que ceux qui ont envie de méditer, c'est pas nous qui leur donnons l'envie, c'est eux qui ont envie de méditer, trouvent le meilleur outil. Donc on est des artisans. Voilà, on est des artisans d'un outil. On fabrique un outil. On ne promeut pas la méditation. Alors, en vrai, la méditation a fait beaucoup de bien, nous a fait beaucoup de bien, moi et mon associé. On a inclus ça dans notre chemin de développement personnel à une place qui est la sienne. Et donc si on me dit est-ce que la méditation c'est bien, bien sûr, je vais dire ça. Mais Petit Bambou en tant qu'entreprise, c'est pas ça. Petit Bambou, c'est le meilleur outil pour que ceux qui ont envie de méditer, enfin le meilleur, dans toute modestie évidemment. Non, mais
c'est le premier, en tout cas en France.
On fait de notre mieux pour que ce soit le meilleur outil pour que ceux qui ont envie de méditer trouvent les bonnes ressources.
Mmh. Et ça, c'est vraiment né du coup de la volonté, enfin de l'association de Tapage et de ton associé Benjamin qui s'est dit en fait, essayons de toucher encore plus de gens au quotidien.
Bah oui, il y a un peu de ça. Alors c'est pas tu parlais de la bataille du toujours plus. Moi je le dis en anglais parce que je suis un métalleux, donc j'écoutais un peu Led Zeppelin et une chanson qui s'appelle The Battle for Evermore. Donc je cite comme ça. C'était pas du toujours plus. C'était du
toujours mieux.
Non, c'est plutôt une démarche c'est couillon si on peut bien le faire de pas le faire.
Ouais.
C'est-à-dire que si on s'appelle l'abbé Pierre, c'est couillon d'aider que deux personnes. Mmh. Si on a la puissance de créer ce mouvement. Faisons-le, sinon en fait on ne se respecte pas soi-même de ne pas y aller à fond. Donc Benjamin a une grande capacité, on a tous les deux, je pense, des capacités d'exécution qui font qu'on pouvait donner vie à ça.
Ouais.
On s'est dit, c'est complètement con de ne pas le faire, ce serait couillon, si on peut apporter ça, apportons-le et apportons-le du mieux qu'on peut. Et moi j'aime bien dire ça aussi, moi j'avais jamais médité avant de commencer Petit Bambou, tu vois.
Ah ouais ?
Ouais, j'avais jamais médité.
Avant de commencer la page ou l'application ?
Avant de commencer l'application.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que tu disais que la méditation avait pris une place dans votre vie.
Bah oui, mais ça fait 7 ans du coup. Oui, quand Benjamin est venu me voir avec la méditation, j'ai ouvert des grands yeux. J'ai dit, mais what ? Qu'est-ce que tu me parles avec ta méditation ? C'est quoi cette histoire ? Il m'a dit, essaye, tu vas voir. Et donc en fait, j'ai essayé la méditation dans le but de découvrir la méditation.
Mm-hmm.
Pas pour mieux dormir, pas pour être moins stressé. Bah, voilà. Donc juste pour découvrir, et comme je fais confiance à Benjamin sur ces sujets-là, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Ça fait genre, je te passe des petits messages, Benjamin. T'as plein de trucs sur lesquels je te fais pas confiance. Non, c'est pas du tout ça. Je me suis dit, si lui, c'était bien pour lui et qu'il veut m'inviter à essayer,
c'est que ça vaut le coup, quoi.
Allons-y, quoi. Allons découvrir. Et en fait, donc la méditation, elle s'est invitée dans ma vie doucement, sans objectif, autre que découvrir ce que c'était. Et ça a fait des changements qui sont notables pour moi dans ma qualité de présence, etc. Enfin, bref, je sais pas.
Tu peux en citer quelques-uns ? Peut-être ce que t'as apporté, toi, la méditation ?
Alors, ça m'a apporté... j'ai dit qualité de présence, je pense que ça englobe pratiquement tout ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Là, je suis avec toi, je suis pas en train de penser... alors, maintenant, quand je suis en train de me dire, tiens, il faut que je reprenne un train...
Oui.
Mais j'y pensais pas du tout avant de...
Ah, ça, c'est génial. Et donc, concentration aussi, en fait.
Concentration, ouais, c'est une pratique qui... c'est un entraînement attentionnel, en fait. Hein. Donc ça m'a apporté vraiment beaucoup. Ça m'a apporté pas mal de choses aussi sur la... Alors c'est des mots tarte à la crème, on parle toujours de bienveillance, tout ça, c'est m'embête, mais c'est quand même des très beaux mots. C'est quand même des très beaux mots. Et notamment, j'adore les exercices de gratitude. Tu as cité tout à l'heure que toi, tu faisais des exercices de gratitude. J'adore ça, parce que la gratitude, c'est sortir de son ego ou de son besoin pour aller se connecter à ce qui fait qu'on est là, maintenant.
Mmh.
Toi, tu m'as invité sur ton podcast, je suis super gratuit, ça me permet de vivre ce moment-là. Plutôt que de dire, je suis centré sur les messages que je dois passer, ou je sais pas, je suis venu sans agenda du tout.
Moi aussi.
Et donc ces exercices de gratitude, je trouve que c'est génial, de se connecter à l'autre, plutôt que se connecter par son intériorité à l'autre, en reconnaissance, plutôt que se connecter à ses propres besoins pour nourrir quelque chose, c'est un exercice qui peut être je sais pas si plus de gens doivent le faire, mais je trouve qu'on devient assez égocentré par nos sociétés où on est un petit peu connecté du vivant et du social par ces réseaux dits sociaux, que j'aime bien appeler les réseaux asociaux. Et se reconnecter à l'autre, c'est quand même vraiment chouette. Et l'exercice de gratitude est pas mal. Il y a des très bons exercices de gratitude en méditation. Alors évidemment, je suis petit bambou, donc il y en a sur petit bambou, mais il y en a dans toutes les applications de méditation. Si ça vous semble intéressant pour vous d'aller explorer cette notion de gratitude, je vous invite à le faire parce qu'il y a quelque chose qui change dans la façon de vivre avec les gens.
Oui, et puis mais je trouve aussi, même d'un côté très égoïste, la gratitude, ça permet, enfin moi je sais que ça me permet de sortir du ressassement. C'est que même si j'ai passé une journée difficile, je vais essayer de trouver trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et en fait, ça te permet de te dire, ah bah en fait, c'était pas si merdique que ça. Parce que comme il y a un biais cognitif qui fait qu'on se concentre plus sur le négatif que le positif, c'est assez facile quoi, de rester un peu enfermé là-dedans. Mais en fait, c'est vrai que si tu prends du recul et que tu te concentres sur ce qui t'a fait du bien, que ce soit voilà, une discussion, un sourire, un plat, ça m'arrive aussi souvent.
Ouais.
Ben ouais, en fait, c'est juste chouette.
Ouais, et des choses toutes simples, hein. Tout simple, hein, acheter une baguette de pain, être...
Et elle était chaude, elle était tiède, sortie du four, le kiff.
Exactement. Et peut-être et le boulanger a mis toute son âme pour faire le meilleur pain, en fait. Et donc, évidemment qu'il y a une transaction, donc on paye le pain, donc il y a une transaction, on donne de l'argent, il donne une baguette. Donc peut-être que la personne qui reçoit l'argent peut avoir de la gratitude pour nous de choisir son pain. Nous, on peut avoir de la gratitude pour la personne, pour tout le talent qu'elle a mis pour qu'on ait un pain qu'on aime bien.
Ouais.
Et que la transaction monétaire ne remplace pas ça. Donc réinviter cette gratitude, alors ça fait pas... pas dire oh, merci à chaque fois parce que c'est relou.
Non, mais c'est ça.
C'est pas ça, c'est quelque chose dans l'intérieur de dire bah, en fait, il y a pas mal de gens. Il y a quelqu'un qui a fait pousser du blé, qui a moule blé pour faire de la farine. Il y a quelqu'un qui a choisi la bonne farine, qui s'est levé tôt le matin, qui a fait cuire cette baguette. Et cette baguette m'a coûté 1,15€. Et moi, je prends plaisir, elle croustille et c'est canon. Et en moi, j'ai de la gratitude pour toute cette chaîne.
Ouais. Et en plus, on apprécie même plus après quand on la mange et tout. Quoi. Donc c'est
carrément, plutôt que de rester dans le. Ah, elle est un peu chère quand même, 1,15€. Ouais, avant, pain, c'est moins cher. Mais si on reste là-dedans, en fait, on oublie toute la beauté qui se passe et qui nous permet de manger ce bon pain.
Voilà. Vous êtes combien maintenant chez Petit Bambou ?
On est 20.
Ok. Et donc moitié, c'est ça, en France, moitié au Luxembourg, on vit...
Alors on est beaucoup moins... donc on a deux bureaux parce que Benjamin vit au Luxembourg depuis... Attends, je le dis, je suis obligé de faire des disclaimers parce que tout le monde pense que c'est pour des raisons fiscales. Mais en fait, il habite là-bas depuis beaucoup plus longtemps que la création de Petit Bambou. Sa femme, il travaille, ses enfants sont scolarisés là-bas. Donc on a un bureau là-bas où ils sont 4 et nous on est 16.
D'accord, ok.
Mais c'est en train de changer parce qu'on trouve que deux bureaux, c'est très compliqué. Et puis effectivement, ça génère sur nous une suspicion de fiscalité et qui est très dur à vivre pour moi, je le dis ici.
Je te comprends, franchement, ce serait la même chose pour moi parce que quand tu fais les choses bien, il n'y a rien de pire que les gens qui aient des soupçons sur pourquoi tu le fais et ta façon de le faire et tout.
Et donc, comme c'est un principe de réalité, on peut se battre en disant mais non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, on est clean, on fait tout bien et tout ça, mais en fait, cette suspicion ne s'arrêtera pas.
Ouais.
Et donc, du coup, on va fermer le Luxembourg.
D'accord.
Alors, on va tout remettre en France.
Ok. Bon, comme ça, au moins, il n'y a plus de disclaimer.
En fait, c'est pour ma paix intérieure.
Ouais, ouais, je comprends. Ça serait con d'avoir une application de méditation, mais pas d'être en paix. Hein.
Ouais, c'est relou. Enfin,
ok, trop chouette. Bon, écoute, je vais te poser des petites questions que j'aime bien poser à la fin. Si tu avais une ressource à nous conseiller, c'est-à-dire que ce soit un livre que tu aimerais offrir aux personnes qui nous écoutent, ça peut être aussi un film ou un podcast, qu'est-ce que tu partagerais ?
Oh, qu'est-ce que je partagerais comme ressource ? Alors, dans les livres qui m'ont marqué, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Frédéric Lenoir qui s'appelle Le Miracle Spinoza. Donc, ça va chercher du côté de la philosophie, mais évidemment. Mais j'aime beaucoup ces livres de vulgarisation des philosophes.
Ouais.
Parce que, comme moi-même, je ne suis pas entraîné beaucoup à lire de philosophie, parce que c'est très dur à lire. Les gens qui me l'expliquent et qui me font découvrir des notions avec mes mots, ça m'a beaucoup marqué. Donc Le Miracle Spinoza est un très très bon livre. En ressources,
Franchement, ouais. Tu nous as déjà passé un super livre, hein, donc voilà très okay. Chouette. Si tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que ce serait ?
Alors en fait, j'ai écouté un de tes podcasts, je sais que tu allais me poser cette question, donc j'ai préparé, mais du coup l'énergie a changé.
L'énergie
a changé.
C'est pour ça qu'il ne faut jamais préparer.
Ouais,
en fait.
Exactement. Donc, je ne vais pas dire ce que j'ai préparé. C'est mieux, ce sera plus spontané. Moi, j'aime beaucoup le rock'n'roll.
Ouais.
Et inviter un rocker, ce serait cool. Ce serait cool. Ça change un peu. Ce serait un peu plus disruptif.
Ce serait un vrai défi, ouais.
Donc moi, le rock que j'écoute, c'est plutôt, ça se trouve plutôt Hellfest qu'au Zénith de Paris. Encore que, enfin, il y en a beaucoup aussi du métal au Zénith de Paris, mais peut-être qu'un groupe comme... ouais, donc tu l'auras jamais. Mais si c'est quelqu'un, j'adorerais écouter James Hetfield, qui est le chanteur de Metallica, qui a beaucoup de...
De quelle origine, du coup ?
Il est américain.
Ok, américain.
Américain, mais peut-être le pendant, c'est un groupe qui s'appelle Gojira. Ce sont des Basques qui sont... C'est un très gros groupe, pas moins connu en France qu'aux États-Unis. C'est un très gros groupe, c'est très connu aux États-Unis, mais ils sont basques, qui ont une démarche très écologique et qui ont en même temps beaucoup de succès dans le rock'n'roll, dans le trash metal. Hein,
Disons-le.
Trash metal, mais qui ont l'air d'être des gars super sympas. Je ne les connais pas, perso, donc j'aimerais bien. Donc écoutez ça. Et puis si tu veux un truc plus classique, ce que j'avais préparé, c'est France Guilin. Ça, je l'avais dit, je le dis quand même.
Ah, mais c'est celle qui a écrit...
La méthode France Guilin.
Ouais, mais nutrition. J'ai lu, ouais.
On a fait une formation sur la nutrition.
Hyper intéressant, putain, on n'a pas parlé de tout ça. Tu te fais le miam aux fruits et tout.
Je fais miam aux fruits, miam aux 5 et je fais bain dérivatif aussi.
Ah ouais, tu fais la totale.
Je fais la totale.
Parce que miam aux fruits, moi j'aime beaucoup, mais franchement, on va pas se mentir en termes de... Enfin, alors, après tu peux le faire pour la semaine et tout, mais c'est quand même un peu contraignant, je trouve.
Tu vois, moi je fais ça le midi au bureau, c'est un quart d'heure. Bah, c'est contraignant, c'est faut acheter des fruits, quoi.
Les fruits, ça va, mais il faut avoir le mixeur pour mixer tes graines de sésame, mixer tes graines de lin, mixer tes trois oléagineux. Enfin,
ouais.
Mais bon, c'est vrai que.
Bah, un mixeur.
Oui, c'est sûr. Ouais, je suis peut-être un peu flemmard, je sais pas. Je dis ça alors qu'en plus je me fais des pancakes, moi. Donc ça demande aussi un peu de préparation.
Oui, non, c'est un petit peu exigeant. C'est vrai qu'il faut préparer ça, puis couper ses fruits, couper tous ses fruits, c'est un peu long. Mais bon, au final, moi, mon fruit, je le prépare en un quart d'heure et ça va. Hein,
ouais. Voilà. Et t'as vraiment vu, depuis combien de temps tu fais, mais t'as vraiment vu une différence dans ton bien-être, dans ta santé
Carrément. Spectaculaire.
Incroyable.
Spectaculaire. Bah, c'est pour moi, mais je le sens. Je le sens à l'intérieur, évidemment, mais je le sens à l'extérieur, ma peau. Je le sens sur ma peau, j'ai l'impression je mets pas de cosmétiques, mais j'ai l'impression que ma peau est toute douce.
D'accord.
Alors qu'avant, elle était beaucoup moins. Ouais, donc je me dis, si ça fait ça à l'extérieur et que je sens ça sur ma peau,
à l'intérieur,
ça doit vraiment être super. Donc
trop
France
chouette.
Guilin, je trouve qu'elle a tellement de choses à dire, elle est un peu iconoclaste en plus, elle est vraiment super chouette. Donc un autre bouquin que je peux recommander, d'ailleurs. La méthode France Guilin, c'est très bien.
C'est intéressant. Là aussi, prenez ce qui vous parle.
Exactement.
Parce que j'aime pas partager, parce que moi, le seul truc que je reprocherais entre guillemets à France Guilin, c'est de partager une vérité. Mais voilà, c'est sa vérité.
C'est sa vérité.
En plus, ça peut pas être, ce qu'elle partage ne peut pas être nocif. Quoi. Donc voilà, écoute, la dernière question du podcast, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Alors, prendre le pouvoir de sa vie, c'est pareil, j'ai vu que tu avais posé cette question, je sais plus du tout ce que je m'étais dit que j'allais te répondre. Donc je te refais spontané. Ouais. Prendre le pouvoir de sa vie, déjà, alors le premier truc, c'est que je pense que c'est différent pour chacun. Donc en fait, il ne faut pas chercher une vérité là-dedans. C'est-à-dire que si vous attendez que Ludovic vous dise « prendre le pouvoir de sa vie, c'est ça » et que j'ai une vérité, a priori, je me trompe, parce que prendre le pouvoir sur votre vie, ça dépend vraiment de vous. Moi, je pense que c'est une... J'ai beaucoup parlé de révolution intérieure, en fait, pendant ce podcast. Je pense que c'est ça, le prendre le pouvoir de sa vie. C'est aller au contact de soi, aller regarder ce qui se passe... Je sais que tu as écrit un livre là-dessus sur les injonctions parentales. Tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé.
Faites aux femmes plus que parentales. Hein.
Ouais. Ah oui, faites aux femmes, pardon.
Ouais.
Pardon. Moi j'ai beaucoup été regarder ça dans le processus jungien d'individuation. C'est de devenir mon propre individu, libéré de ce qui m'a été inculqué. Et je trouve que ça permet de reprendre beaucoup de pouvoir sur ses propres décisions et accepter qu'on n'aura jamais le pouvoir sur soi-même.
Ce podcast n'a donc plus de sens.
Ce podcast a beaucoup de sens. Parce que en fait, prendre le pouvoir sur soi-même, c'est un chemin. Et encore une fois, c'est un chemin qui n'a pas de but. Enfin, qui n'a pas de...
Oui, qui n'a pas de ligne d'arrivée.
Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et donc, prendre le pouvoir sur soi-même, c'est cheminer, kiffer de cheminer, aller à la rencontre de soi, ne pas avoir peur d'ouvrir les petites portes dérobées qui sont à l'intérieur de nous qu'on n'a pas envie d'aller voir, pour pouvoir prendre des décisions justes pour soi. Et alors, je vais quand même faire pareil, ce que j'avais préparé. Je l'avais déjà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Jojo. C'est une chanson que je vous invite à écouter si vous aimez. On écoute du métal et Jacques Brel.
Voilà.
Il s'adresse à son meilleur ami, qui est dans le cimetière. Il s'adresse à son meilleur ami devant sa tombe, son ami qui est décédé. Et il lui dit: nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Et donc, reprendre le pouvoir sur soi-même, c'est aussi aller oser quelques imprudences pour aller à la rencontre de soi-même que ce soit des imprudences entrepreneuriales ou dans son métier ou dans son couple ou dans son quelques imprudences qui font que la vie reprend toute sa saveur et là si c'est nous qui
sommes au pouvoir
qui invitons cette imprudence, à ce moment-là on reprend beaucoup de pouvoir sur sa vie.
Super, bah merci Ludovic, j'ai passé un très bon moment. Je suis sûre que les auditeurs, les auditrices aussi, surtout les vrais qui sont là jusqu'à la fin. Bon, du coup, si jamais ils veulent te contacter, t'as pas Twitter, t'as Facebook,
si, j'ai Facebook,
t'as LinkedIn ou pas?
J'ai LinkedIn.
Est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn?
Oui, sur LinkedIn.
Allez, envoyez un petit message à Ludo si jamais cet épisode vous a plu. Je vous invite aussi à découvrir Petit Bambou, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Vraiment, moi j'entends vraiment que du bien et ma grande sœur l'utilise depuis des années. Et puis voilà, écoute, j'ai envie de te dire à bientôt, j'espère. Merci encore Ludovic.
À tout bientôt et merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant @petitbambou et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.